d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à toutes et à toutes, nous poursuivons aujourd'hui notre série de rediffusions estivales. C'est sans doute l'information la plus commentée du moment, celle qui fait basculer les scrutins et chamboule les esprits les moins structurés. J'ai nommé les fake news, les fausses informations qui, de Washington à Londres et Paris, en passant par Moscou, sont l'objet de toutes les attentions. Le président français Emmanuel Macron a annoncé une nouvelle loi sur la question. Les Britanniques l'ont déjà fait avec la création d'une agence qui aura particulièrement à cœur de contrôler les fausses rumeurs venues de Russie. Les fake news, comment ça marche? Analyse au travers d'un cas d'école après l'attentat de Westminster de mars dernier à Londres avec Marie Billon.
Quelques minutes après que Khalid Massoud a tué 6 personnes et blessé 50 autres sur le pont de Westminster en mars dernier, une jeune femme musulmane, foulard beige sur la tête, est prise en photo. Elle regarde son téléphone portable en marchant et rapidement, elle devient un objet de haine sur les réseaux sociaux alors qu'une victime gît par terre, elle continue son chemin. Le hashtag « Interdisez l'islam » commence à fleurir. L'utilisateur Twitter South Lone Star est le premier à porter ses accusations. Peu importe que la détresse se lise clairement sur le visage de la jeune fille et qu'elle révèle ensuite qu'après avoir tenté de porter secours, elle appelait sa famille pour la rassurer. Mais South Lone Star était en fait un compte tenu par un agent numérique russe. Et de fait, ce n'est pas la première fois que ces faux comptes propagent des fake news. En novembre 2017, Theresa May avait accusé la Russie de chercher à faire de l'information une arme, en déployant ses médias dirigés par l'État pour diffuser de fausses informations et des images trafiquées. Et cela dans le but de semer la discorde en Occident et de saper nos institutions, avait-elle dit. Puisqu'il s'agit donc d'une question de sécurité nationale, le gouvernement a annoncé la création d'une agence pour lutter contre les fausses informations provenant des États étrangers. Cette unité a été approuvée par le Conseil de sécurité nationale et le but est d'utiliser les systèmes de communication de sécurité nationale pour s'attaquer à ces défis interconnectés et complexes, a précisé Downing Street. Le Royaume-Uni devrait donc être mieux armé à l'avenir, mais pour les soupçons d'ingérence lors du référendum sur le Brexit en juin 2016 et dans les élections législatives l'année suivante, le Parlement étudie la question. La commission du numérique de la Chambre des communes a demandé à Facebook et à Twitter de lui fournir des éléments qui pourraient déterminer si Moscou a ou non tenté d'influencer le résultat des urnes.
Mettre en lien les compétences des uns et les besoins des autres. En Allemagne, l'université de Potsdam donne aux réfugiés qui ont été enseignants dans leur pays d'origine la possibilité de devenir assistant puis professeur dans les écoles allemandes qui manquent d'enseignants. Ce projet pilote intitulé Refugees Teacher Welcome fonctionne déjà. Reportage à Potsdam de Déborah Berlioz.
Le soleil brille ce matin sur l'école primaire Goethe à Potsdam, près de Berlin. Dans une classe de CE2, le cours de mathématiques est sur le point de commencer.
Je viens de Syrie. J'étais professeur de mathématiques dans mon pays. J'ai étudié les mathématiques et j'ai travaillé pendant 6 ans comme enseignante.
Mais celle qui dirige le cours n'a pas le profil type des enseignants allemands. Alézar vit en République fédérale depuis 2 ans seulement. Avant de rejoindre l'école Goethe, Alézar a suivi un programme à l'université de Potsdam destiné aux enseignants réfugiés. C'est Myriam Vock qui a eu l'idée de ce projet à l'été 2015, au plus fort de la crise des réfugiés. Cette professeure à la faculté se doutait bien que de nombreux enseignants se trouvaient parmi les nouveaux arrivants. Autant faire profiter l'Allemagne de leurs compétences, a-t-elle pensé. Surtout que la région manque cruellement d'enseignants. L'université de Potsdam a tout de suite soutenu son idée.
Nous pensions commencer avec un groupe de 10 personnes, mais nous avons reçu presque 700 candidatures. Il y avait un besoin énorme pour cette formation et nous nous sommes dit qu'avec un peu d'aide, nous pourrions offrir plus de places. Heureusement, le ministère de l'Éducation du Brandebourg nous a rapidement donné les moyens et nous avons pu commencer avec 3 groupes d'élèves.
Depuis 2016, 80 réfugiés ont pu intégrer la formation. Pendant 3 semestres, ils suivent des cours intensifs d'allemand ainsi que des séminaires de pédagogie. Ils effectuent également un stage dans une école afin de se familiariser au maximum avec le système scolaire allemand. Au début, Alézar a eu quelques surprises. Les méthodes d'éducation ne sont pas tout à fait les mêmes en Syrie.
Il y a plus de liberté ici et je trouve cela très bien. Cela aide les enfants à construire leur personnalité. Chez nous, il n'y avait pas autant de liberté. Les élèves étaient plus disciplinés, mais je pense que la liberté est plus importante.
Au terme de leur formation, les réfugiés obtiennent un contrat d'un an en tant que professeur assistant. Ils travaillent à temps plein et leur salaire est d'environ 1700 à 1900 euros net. 13 élèves de la première promotion travaillent déjà dans des écoles de la région. Myriam Vock n'a eu aucun mal à trouver des débouchés pour ses enseignants.
Les écoles étaient très intéressées par ces professeurs assistants. D'abord parce qu'elles pâtissent d'un manque de personnel. De plus, elles ont des élèves réfugiés. Elles doivent travailler avec leurs parents et cela leur pose beaucoup de difficultés. Donc les écoles sont contentes d'avoir quelqu'un qui puisse les aider.
Dans son école, Alézar apporte son soutien à 3 enfants syriens. Pour ses élèves, la jeune femme est une interlocutrice idéale et pas seulement parce qu'ils parlent la même langue.
Nous avons fait les mêmes expériences. Nous avons vécu la guerre en Syrie, la fuite, et nous avons rencontré les mêmes difficultés à notre arrivée en Allemagne. Donc je les comprends bien.
Toutefois, Alézar travaille principalement avec des enfants allemands. Elle leur donne des cours de mathématiques et parfois elle leur parle de son histoire.
Ils ont toujours beaucoup de questions. Ils me demandent si j'ai déjà vu un char, si j'ai vu cela. Et maintenant, ils connaissent aussi leur nom en arabe et ils peuvent l'écrire.
Après son contrat d'un an, Alézar aimerait devenir enseignante à part entière, mais ce n'est pas facile en Allemagne, car il faut avoir étudié 2 matières pour obtenir le diplôme d'État. Or, Alézar n'a suivi qu'un cursus de mathématiques. Si elle fait ses preuves, elle peut cependant être embauchée comme enseignante non titulaire. Elle n'aura pas le statut de fonctionnaire et aura une paie inférieure à celle d'un titulaire, mais elle pourra continuer de se former en vue de passer le diplôme d'État. Hassan, étudiant dans le programme, a une autre solution. Selon lui, les réfugiés devraient pouvoir donner des cours d'arabe en plus de leur matière principale. Mais à Berlin, cette langue n'est pas au programme.
C'est un peu injuste. Je pense que les enfants réfugiés ont le droit de maîtriser, d'apprendre leur langue maternelle. Quand ils seront grands, s'ils veulent retourner dans leur pays pour le soutenir et le reconstruire, ils s'y sentiront comme des étrangers.
Le projet de l'université de Potsdam, modèle souvent cité pour l'intégration des réfugiés, a déjà fait des émules. Un programme similaire a ouvert à la faculté de Bielefeld. Or, l'Allemagne a besoin de ces nouveaux professeurs. À la rentrée 2017, plus de 3300 postes d'enseignants étaient vacants dans le pays.
Ils ont l'âge des blagues de potache, mais ces enfants, ces jeunes adolescents-là ne rigolent pas, ils sont armés jusqu'aux dents. Ils font partie de ces baby gangs que découvre l'Italie alors que la question de l'insécurité occupe une place centrale. Pour en parler, on retrouve Cécile Debarge en Italie. Cécile, qu'y a-t-il derrière ce mot baby gangs ?
Une photo a fait le tour de l'Italie et pourrait parfaitement résumer ce qu'est un baby gang. Imaginez-vous le perron d'une porte dans une rue anonyme au mur de briques à moitié cassé. Et puis sur les 2 marches qui se trouvent devant la porte, 8 garçons en basket et bermuda qui prennent la pose. On leur donnerait entre 9 et 10 ans, au maximum 12 ou 13. Rien de bien inquiétant donc si ce n'était les couteaux, battes de baseball et pistolets qu'ils tiennent fièrement entre leurs mains. La photo a été prise à Naples, dans les quartiers espagnols, puis publiée sur Facebook avec la légende « On fait peur ». Depuis la publication de la photo, les médias italiens n'ont cessé de parler de ces bandes de jeunes ultra-violentes. Dans ce reportage des Yéné sur la 5e chaîne de la télé italienne, le journaliste a face à lui un garçon cagoulé dont on ne voit que les yeux. L'échange entre les 2 hommes est glaçant.
« Ne regarde pas dans les yeux. T'as pas confiance en moi ? J'ai même pas confiance en mes parents. » Et comment tu te définirais ? Un jeune de la rue. Les jeunes de la rue comme lui font aujourd'hui la une des journaux, parce que depuis quelques mois, le phénomène a pris un tour particulièrement violent.
Et quand ce journaliste italien dit que c'est particulièrement violent, concrètement, est-ce qu'il fait allusion à des attaques récentes ?
Ce qui a vraiment créé une onde de choc autour des baby gangs, c'est l'agression d'Arturo, un jeune garçon de 17 ans, poignardé à la gorge et au thorax par des jeunes qui tentaient de lui voler son portable. Depuis, les cas sont innombrables. Il y a eu l'agression de Gaetano, 15 ans, frappé au sang par 15 adolescents. Ou bien, une dizaine de jeunes armés de chaînes ont agressé 2 étudiants pour leur voler leur smartphone. C'est ce qu'on peut lire sur le journal La Stampa.
Une pistola vera, l'avez mai vista? Sì.
Dans ce reportage de la CT, donc toujours la télévision italienne pour l'émission Piazza Pulita, la journaliste demande aux enfants s'ils ont déjà vu un vrai pistolet. Avec une assurance désarmante, les enfants répondent tous un oui, désabusé. Un peu plus tard d'ailleurs, ils montreront devant la caméra leur arsenal d'armes blanches. Aucun d'eux n'a plus de 14 ans.
Les cas dont vous parlez, Cécile, ont tous eu lieu à Naples. Est-ce que c'est la seule ville touchée par le phénomène ?
Disons que c'est la plus symbolique. C'est à Naples qu'a été prise la photo. C'est à Naples que s'est rendu il y a quelques semaines le ministre de l'Intérieur, Minetti, pour dénoncer cette violence et la culture de l'impunité. Mais en réalité, les manchettes des journaux de toute l'Italie font leur titre sur les baby gangs.
Et au-delà des faits divers, quelles explications les médias italiens donnent-ils à ce phénomène ?
C'est assez surprenant, mais plusieurs interviews de sociologues, de politiques ou des éditos pointent du doigt la responsabilité de la série télé Gomorra. Le journal local napolitain Il Mattino, par exemple, résume les baby gangs comme ceci. Ce sont des bandes de jeunes gamins qui jouent à imiter Gomorra. Idem avec l'interview de l'ancien président du tribunal pour mineurs de Rome, qui fait les mêmes déclarations. Cette série, en fait, est inspirée du livre de Roberto Saviano, qui raconte donc des histoires de mafia à Naples, sauf que ce livre est une enquête sur la Camorra, la mafia napolitaine. Il n'invente rien et surtout, ce livre a été l'un de ceux à dénoncer le plus fermement la mafia et surtout pas à en faire l'éloge. Dans une vidéo publiée sur le site du quotidien national Repubblica, le journaliste italien, qui vit toujours sous escorte, rappelons-le, a d'ailleurs tenu à répondre à ses détracteurs.
Le problème est énorme. Il y a une sud-américanisation de Naples, du sud du pays, de l'Italie tout entière. L'Italie est le pays d'Europe qui ressemble le plus à un pays d'Amérique du Sud, dans l'indifférence la plus complète du débat public.
Il Sole 24 Ore, dans un très bon article d'analyse, pointe la culture de l'impunité qui gangrène la société italienne, à commencer par la classe politique. Et le terrain le plus fertile pour endiguer ce phénomène chez les enfants, c'est l'école, point de vue que partage Roberto Saviano.
Pour leur faire choisir une autre voie, il ne s'agit pas de ne plus parler du problème, de faire régner l'omerta ou de leur faire voir des séries où ce sont les gentils qui gagnent. Non, c'est l'école l'unique réponse. Il faudrait que l'armée de professeurs dont on entend parler depuis des années mais qu'on ne voit jamais arrive.
Et justement, est-ce que des mesures ont été prises dans ce sens dans l'éducation en Italie ?
La seule mesure concrète vient de la police. Elle a lancé au début du mois une application pour smartphone qui s'appelle YouPol et qui permet aux usagers de signaler des épisodes de violence en parlant directement avec la police et en envoyant des photos via l'application. Elle a été testée pour l'instant à Milan, à Rome et à Catane.
Merci Cécile Debarge, à très bientôt. Février sans supermarché, c'est un petit slogan qui a fait mouche sur les réseaux sociaux en Suisse. L'idée est de réfléchir un peu plus à ce que l'on met dans son panier et aux commerçants auprès de qui on se fournit. Des milliers d'internautes ont répondu à l'appel et découvrent une autre manière de faire leurs courses. C'est le reportage de Katia Michel. Allez,
pas de caddie, pas de file d'attente aux caisses, ni de promotion choc. C'est à la ferme que Ave Ménis fait ses courses désormais.
Donc c'est la ferme Vanet. Et puis c'est un producteur de viande bio. Et bah il fait un petit marché comme ça convivial. Après à l'intérieur il y a le tea room. Puis c'est très convivial, c'est ça qui nous plaît.
Ave a décidé de relever le défi février sans supermarché. L'objectif pour cette mère de 3 enfants, explorer une manière alternative de consommer.
Il faut prendre conscience de son mode de vie en général, ralentir le rythme, apprendre à prendre soin de soi. Voilà. Pour moi, le supermarché, c'est vraiment la solution de facilité. Mais on a quand même des indispensables. Et moi, mon but dans ce défi-là, c'était de voir si j'arrivais à dépasser ces indispensables. Voilà. J'ai fait une liste. Ouais, parce que je vais la sortir. Bah, y a le papier toilette, la litière pour chat. Ça reste quand même supermarché. Et puis, bah, par rapport... pour moi, il y a 3 aspects qui font que j'ai un peu progressivement éliminé les supermarchés. Bah, c'est l'éthique du supermarché, la pollution, la politique des prix, des plastiques, etc. Donc c'est pour ça qu'on a déjà mis en place divers endroits où on peut se fournir de produits de meilleure qualité, puis surtout fiabilité de production et d'origine aussi.
Via Facebook, Ave peut également profiter des astuces et des bons plans des autres participants à l'opération février sans supermarché.
Là, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui échangeaient justement les adresses des lieux où acheter en vente directe, etc. Ils proposent aussi du covoiturage pour emmener les gens qui n'ont pas de voiture dans les lieux dans les lieux justement privilégiés comme ça, donc oui. Ouais.
Ricardo, son mari, la soutient pleinement dans ce défi, une démarche qu'il estime éco-responsable.
Quand on fait des courses, par exemple, à la Migros, puis qu'on remplit presque autant notre poubelle que notre frigo, ça fait un peu peur, quoi. Tout est emballé, tout est sur-emballé, donc on remplit le frigo, puis on entend la poubelle.
Du côté des supermarchés, on a du mal à comprendre ce boycott. Grégoire Tissot, le président du groupement neuchâtelois des grands magasins, assure que les deux principales enseignes suisses, Migros et Coop, respectent une certaine éthique.
Nos commerces sont relativement respectueux et de l'environnement et de l'aspect régional. Si on prend l'exemple de Migros par exemple, sur 2015, Migros a été nommé le détaillant le plus durable au monde. Si on regarde par exemple l'offre que propose Coop, c'est pas moins de 3000 produits qui sont dans des labels régionaux.
Février, sans supermarché, l'idée est apparue sur Facebook l'an dernier. C'est Léa Cando, une jeune neuchâteloise, qui a eu l'idée de lancer ce défi, lassée par la surconsommation lors des fêtes de fin d'année. Mais Léa l'assure, elle n'a pas déclaré la guerre à la grande distribution.
On reconnaît tout à fait le fait que les supermarchés ont leur utilité, ont des raisons d'exister, notamment en termes d'emploi et en termes d'économie. Donc, l'idée, c'est pas de les boycotter à tout prix, c'est vraiment juste de prendre le mois de février pour découvrir une autre manière de faire.
La jeune internaute était loin tout de même de s'imaginer que son idée allait faire tant d'émules à travers toute la Suisse romande. À Genève, 1500 internautes ont décidé de relever le défi, autant à Neuchâtel et 600 personnes en Valais. Le défi a même dépassé les frontières helvétiques. Des pages Facebook février sans supermarché ont été lancées en Franche-Comté, en Normandie et en Savoie notamment.
Ah, pas tout à l'heure.
L'embargo décrété par la Russie sur les principales denrées alimentaires européennes a généré un trafic parfois d'envergure. Moscou a ainsi suspendu toutes ses importations de pommes en provenance de Bosnie-Herzégovine, pays qui pourrait servir de couverture pour de la marchandise européenne interdite. Les explications de Simon Rico.
Ce n'est pas la première fois que Moscou décide d'interdire les importations de fruits et légumes venus de Bosnie-Herzégovine. En 2016, la Russie avait déjà constaté des irrégularités et bloqué les importations pour une courte durée. Les entreprises bosniennes auraient en fait trouvé le bon filon. Elles réexporteraient des produits agricoles venus de l'Union européenne, contournant ainsi l'embargo imposé par la Russie. Voilà déjà plus de 3 ans que Moscou bloque l'importation de produits alimentaires européens. Une mesure de rétorsion après les sanctions imposées par Bruxelles et Washington pour marquer leur désaccord avec la position de la Russie dans le conflit en Ukraine. L'embargo est strict et pénalise douloureusement le secteur agricole européen. Pas étonnant que Moscou scrute à la loupe tous ceux qui essaieraient de passer à travers les mailles du filet. Fin 2014, les autorités russes exigeaient ainsi que la Bosnie-Herzégovine transmette au plus vite les chiffres de sa production agricole annuelle après avoir constaté la hausse exponentielle de ses exportations de pommes et de poires, passées de 10 à plus de 2000 tonnes sur les 9 premiers mois de l'année. À cause du millefeuille bosnien et de ses deux entités politiques et administratives, chacun se renvoie la balle dans cette affaire. L'entreprise visée par Moscou est implantée en Republika Srpska, mais les pommes auraient été produites dans l'autre entité, la Fédération Croato-Bosniaque. Quant à la cargaison, elle a été exportée depuis le bureau des douanes du district de Brčko, un petit territoire autonome. Toujours est-il que les autorités de l'entité serbe ne cachent pas leur inquiétude. Environ 40% des exportations agricoles partent en direction de la Russie. Encore une fois, ce sont les petits paysans qui risquent de trinquer à cause des trafiquants.
Toute l'équipe d'Accent d'Europe vous dit à demain pour une nouvelle série de rediffusions.